Pen.
Alors, voilà, vous m'entendez? Très bien. Alors, première lecture, Éphésiens chapitre 3, verset 8. Moi qui suis le plus petit, c'est Paul qui parle. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je pense que c'était ça. Oui. Alors ensuite, nous lisons dans Galates, si ma mémoire est bonne, on passe. Non, à Colossiens 13, chapitre 13. Colossiens chapitre 2, pardon, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Et ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Et un dernier passage dans les Galates, au chapitre 4, verset 1er. Voici ce que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. C'est bien ça ?
Oui.
Ça suffit pour vous. Très bien. C'était de longues lectures ce matin. Vous n'avez pas tout compris, maintenant vous allez comprendre.
Oh. Oh.
Voilà. Oui, tout est dit. En écoutant les louanges qui sont sorties de chacun, de chacune ce matin, je me disais, mais ils ont tout compris. Qu'est-ce que je vais leur dire de plus ? C'est vrai. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Et dans le déroulement de nos vies chrétiennes, il est normal que nous grandissions, que nous croyions toujours davantage, toujours mieux. Seigneur, bénis ta parole pour nous ce matin, que ton esprit puisse nous affermir les uns avec les autres. Par la puissance de l'Esprit, enseigne-nous, Seigneur. Amen. Il était une fois, sans le S à la fin de foi. Il était une fois. Quand on parle du christianisme, loin de parler d'une croyance, on devrait d'abord parler de la foi advenu en Jésus-Christ, révélé en un moment particulier de l'histoire, lorsque les temps ont été accomplis. Vous savez que ce mot « foi » a un champ sémantique, comme on dit, très vaste. Allez, dites-moi un mot ou deux qu'on pourrait apparenter au mot « foi ».
Confiance.
La confiance. La fidélité. Ah oui, mais ce n'est pas le champ sémantique du mot. La confiance, les fiançailles, les finances, la fiduciaire, et il y en a encore d'autres. C'est un champ vaste. Et quand nous parlons de foi, le plus souvent, nous commençons à nous regarder un peu le nombril. Est-ce que j'ai la foi ? C'est une bonne question, mais ce n'est pas celle par laquelle il faut commencer. Il ne faut pas commencer par « je ». Il faut commencer par Jésus. Jésus est l'origine, le commencement, le fondement de la foi. Et quand on parle de la foi, il faut d'abord parler de la foi de Jésus. Donc de la fidélité de Jésus. Donc de nos fiançailles avec lui en tant qu'Église. La foi de Jésus nous porte, nous fonde, nous accompagne, nous éclaire, permet la prière. La foi de Jésus-Christ. Et cette foi de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu avait prévu dès avant la fondation de l'univers. Dès l'entête, pour reprendre une traduction de « au commencement » qui ouvre nos Bibles. « Au commencement ». André Chouraki, j'en parle de temps en temps, a traduit ce haut commencement par en tête. en tête. Ça fait penser à ce que Dieu avait en tête dès avant le commencement, son projet. Et ce projet était resté mystérieux, caché. Paul parle du mystère caché de tout temps en Dieu et qui est maintenant révélé en pleine lumière par l'Évangile, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Dieu avait en tête de sauver les humains par la fidélité de Jésus-Christ. Il a décidé de sauver ceux qui mettraient en lui leur confiance. Oui, c'est à... Au fond, on peut dire ceci, notre foi est devenue possible à cause de lui. Nous avons mis notre confiance dans la foi de Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur la foi et la fidélité de Jésus-Christ pour nous approcher de Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, mort pour nous et ressuscité. C'est à la croix que le chemin commence, dit un vieux cantique. Je ne sais pas si quelques-uns le connaissent. Levez la main. Ah. Notre chère Agnès, comment va Jean-Louis ? Doucement. Bien. C'est à la croix que le chemin commence, le chemin de foi, notre chemin dans la foi. C'est à la croix que notre chemin commence, notre foi devenue possible à cause de lui. C'est pourquoi nous nous tenons devant Dieu comme devant notre Père, là où le Saint-Esprit nous donne la joie de crier « Abba, Père ». C'est un terme très intime. « Abba ». Donc la foi, fidélité, est d'abord et avant tout celle de Jésus. Nous plaçons notre foi dans la foi de Jésus, celle dont il est la tête, le commencement, le fondement, l'origine, et celle dont il est l'aboutissement, l'accomplissement. Il y a une expression dans les Épîtres qui dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est un mot un peu piégé, consommateur. C'est celui qui en est à l'origine et qui l'a amené à l'accomplissement, à la perfection. Cette foi, il l'a fait entrer dans le monde au temps fixé, au terme du temps des tâtonnements humains à la recherche de Dieu. Quelle est la première parole que Dieu adresse à Adam ? Quelqu'un peut me le dire ? Où es-tu ? Voilà. Où es-tu ? Dieu cherche l'homme. C'est quand même une surprise, non ? C'est Dieu qui cherche l'humain, d'abord. Nous nous étions si bien cachés de lui par la peur inspirée du malin que nous avons fini par croire que Dieu se cachait de nous. Combien de fois j'entends, et probablement vous aussi, des gens dire « Mais où est Dieu ?» Nous croyons que Dieu se cache de nous. Et ça, c'est ce qu'a fait le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Il a tordu le sens des choses. Nous nous étions cachés et nous avons fini par croire que c'est lui qui se cache. Et l'adversaire, le diable, enfin, ne pouvait pas maintenir sa domination sur le monde qu'en alimentant l'illusion de l'absence de Dieu, en aveuglant les humains sur la venue de Jésus, sur l'irruption de Dieu dans l'histoire. De cet aveuglement, dès l'origine, sont nées les religions. Nous, l'humanité entière, avancions en tâtonnant comme des aveugles. Il y a un discours qui est rapporté dans le livre des Actes, au chapitre 17, le discours de Paul à l'Aréopage d'Athènes. Voici ce qu'il dit. « Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et au verset 30, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se convertir, changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » En son temps, Jésus a posé ce verdict concernant la religion de son peuple, c'est-à-dire Israël. Matthieu 15, verset 14, il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. » La mission du peuple élu du Premier Testament, Israël, était pourtant, au travers du don de la Torah, de la loi, d'être lumière pour les nations. Si Israël a failli à cette mission, cela ne signifie pas pour autant que Dieu ait renoncé à ouvrir les yeux de tous. Et il l'a fait en faisant resplendir sa parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la grâce, son évangile. L'évangile, la lumière des hommes. Jésus-Christ, la lumière des hommes. Cette mission d'Israël n'a pas disparu, elle s'est métamorphosée, elle s'est concentrée dans la personne du Messie d'Israël, Jésus-Christ, et cette mission s'est amplifiée à tous ses disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde, pour que les yeux s'ouvrent. Mais ne pourrait-on pas poser le même verdict, le même constat d'échec au sujet de toutes les formes religieuses du monde? L'avantage des Juifs par rapport aux nations, c'est qu'ils avaient reçu les oracles de Dieu, c'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains, c'est-à-dire la loi de Moïse. Les Goïm, eux, les autres nations, vivaient sous l'influence des éléments de l'univers, comme on l'a lu, des puissances spirituelles de l'univers, princes, autorités, dominations de ce monde de ténèbres. Paul les appelle les pauvres rudiments, misérables de l'univers. Ces puissances spirituelles mauvaises sont à l'origine de toutes les religions du monde, païens. Ces religions accompagnées de leur cortège d'aberrations, comme on pourrait penser aux sacrifices sanglants, aux diverses mutilations des hommes, des femmes. On peut penser aux règles de pureté, à la sanctuarisation de lieux, de personnages, de moments, jours, mois, années, déclarés saints. Et pour le malus, les malédictions, les exclusions et les guerres qui s'en suivent. Voilà où en est notre monde païen. Il est conduit par ces puissances, ces dominations, ces autorités qui conduisent à des aberrations comme ça. Nous sommes réunis ici ce matin par la bonne nouvelle. L'évangile, c'est que par sa mort sur la croix, Jésus a vaincu ces puissances spirituelles mauvaises. Il les a dépouillées de leurs droits sur nous. Alléluia. Comment? Eh bien, en faisant de nous des pardonnés, des rachetés, des réconciliés. Vous le croyez ça? Il a fait de nous des pardonnés, des rachetés, des réconciliés. Et ce faisant, il nous a arrachés à toutes ces puissances mauvaises. Elles ne règnent plus sur nous. Maintenant, Jésus règne en nous par le Saint-Esprit. C'est fait. C'est la vérité. Nous sommes si souvent tentés de dire le contraire. Oh, je ne suis pas assez ceci. Pas encore cela. Oh, je me suis encore cassé la figure. Eh bien, malgré tout, malgré nos chutes, nos rechutes, malgré tout cela, tu es un racheté. Luther disait que quand le diable vient l'attaquer, il avait gravé sur son bureau « Je suis un baptisé ». C'est-à-dire, j'ai cru, j'ai reçu Jésus-Christ. Il m'a racheté, je suis sauvé. Tu es sauvé.
Alléluia.
Oui, tu es sauvé. Malgré tout, ne lâche pas. Comme disent les Canadiens, lâche pas la patate. Sur la croix, Jésus a vaincu ses puissances spirituelles. Il nous en a délivrés. Et c'est ce qu'on a lu dans ces extraits des épîtres de Paul. Oui, nous pouvons nous présenter devant Dieu, couverts par la justice de Jésus, par la foi de Jésus. Et Dieu nous voit en Christ, saint, sans défaut, sans reproche. Est-ce que vous croyez ça vraiment? Il ne veut pas savoir autre chose de nous que Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut accueillir Jésus-Christ. Il faut placer en lui sa confiance. On n'a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Selon Jean chapitre 8, verset 12, c'est le chapitre où se trouve le récit de la femme surprise en adultère, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Et va, et ne pêche plus. » Et il poursuit. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et au chapitre suivant, c'est suite à la guérison d'un aveugle de naissance, versets 39 à 41, Jésus dit ceci, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi serions-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vraiment, vous n'auriez pas de péché. » Ça veut dire vous seriez excusables. « Mais maintenant, vous dites « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Il subsiste. Ce qui condamne le monde, ce qui fait rester le péché, ce qui encourt encore la colère de Dieu, car elle existe, c'est le refus de croire en Jésus-Christ. C'est le négliger, l'ignorer volontairement. À ce titre, on pourrait affirmer que la religion fondée sur le mérite des œuvres, sur les rites, sur les traditions humaines, et non sur Christ, c'est le péché. La religion, à la manière des hommes, est devenue le péché. Nous n'avons pas d'autre espérance que de mettre notre foi dans la fidélité de Jésus-Christ pour nous approcher de Dieu. Et ça n'est pas une religion, ça. Ça, c'est la foi. C'est exactement le sens de ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8, les deux premiers versets. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et il s'agit là de l'Évangile, m'a libéré de la loi du péché et de la mort, et il s'agit là de la loi de Moïse. Comme de toute autre religion, nous en avons été affranchis. Et on pourrait ajouter ceci, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés des éléments de l'univers inspirateurs des religions du monde. Nous avons été libérer. Jésus n'a pas fondé une religion. Il a ouvert une porte. Je suis la porte des brebis. Une porte que personne ne peut refermer. Il a ouvert un chemin. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. En dehors de Jésus, il n'y a plus de médiateur consacré. Dans l'Église de Jésus-Christ, les femmes et les hommes sont tous prêtres pour Dieu. Tous ministres, c'est-à-dire serviteurs. Vous saviez que vous étiez ministre ? Ça vient de Minus, hein ? C'est vrai ? Au fond, on pourrait dire que la confiance en Jésus est une foi, une confiance laïque. C'est pourquoi la loi de séparation entre les églises et l'État nous convient parfaitement. C'est pourquoi nous ne redoutons pas la sécularisation de la société. Rien n'empêche un comportement qui témoigne de l'Évangile. On pourrait fermer les églises. On pourrait interdire aux chrétiens de se rassembler. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça ne change rien. L'erreur de Louis XIV au XVIe siècle était de penser qu'en démolissant les temples, on ferait disparaître la religion protestante. Mais il n'a rien compris. Les cultes avaient lieu dans les maisons. Et au cœur de ces cultes, il y avait la parole de Dieu, la Bible. Il y avait la foi des gens. Il y avait la confiance. Et toutes les dragonnades, et toutes les persécutions, et toutes les galères n'ont pas pu fermer la porte que Jésus a ouverte. J'ai vu une espèce de sceau, quand on pone comme ça, qui résumait bien la situation. Ça représentait une Bible, une enclume et un marteau. Et le slogan, c'est « Tant plus à frapper l'on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. » Indestructible. Bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a plus de lieu saint, d'enceinte sacrée, comme l'était le temple de Jérusalem, par exemple. Et ce lieu qui nous accueille ce matin n'est pas un sanctuaire qui nous mettrait à l'abri et dans lequel nos prières auraient plus de valeur aux yeux de Dieu. En le quittant, ce lieu de ce matin, parce que nous allons le quitter, bien sûr, on ne passe pas à autre chose. Le culte demeure. La foi demeure. La confiance nous accompagne. L'Esprit Saint reste avec nous. À la maison, au travail, dans la rue, partout, tout le temps. Ne me quitte pas. Non, il ne te quittera pas. Alléluia. Même s'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, de se rencontrer, l'empêchement de cette rencontre qui nous attriste malgré tout, non ? Ne nous prive pas de la présence du Seigneur par l'Esprit Saint. Il est en nous, partout. Où nous allons, en tout temps, sans éclipse, pas en pointillé. La grâce de Dieu nous a délivrés de l'obsession de la pureté. Il n'y a plus de nourriture pure ou impure. Je me rappelle dans ma jeunesse que dans le milieu évangélique où j'étais, il ne fallait pas manger de boudin. Parce que tu ne mangeras pas de sang. Voilà. Bon, j'ai quand même fini par comprendre que Dieu s'intéresse plus à ce qu'on a dans le cœur que dans l'estomac. Hein, il est plus grand que ça. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de personne pure ou impure. Il n'y a pas d'étranger. Il me semble qu'on a largement oublié ça aujourd'hui. comme disait Coluche, il y a 50 millions de Français et 3 milliards d'étrangers. Nous sommes tous aimés de la même façon. Il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a qu'une famille humaine de Dieu, aimée de Dieu. Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Et Paul fait écho, qui écrit que personne ne vous séduise, ni ne vous effraie, ni ne cherche à vous ramener en arrière, comme le faisaient les Galates. Ils faisaient des allers-retours entre l'Évangile et la loi. C'était des gens flexibles. Mais la croix a cassé l'histoire en deux. Elle a mis un terme au temps des religions. Elle a ouvert le temps de la confiance. Et cette confiance, elle est en vous. N'est-ce pas? Elle ne vous quittera pas, à condition de regarder vers Jésus-Christ et vers lui seul. Le Christ Jésus, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et quoi qu'il advienne. Nos contemporains semblent l'avoir oublié, qui court après toutes les nouveautés du marché religieux moderne. J'étais étonné de voir le nombre de statues de Bouddha qui se vendent dans les jardineries. Incroyable. Qu'est-ce que ça fait là? Et puis si avec ça. Nous avons là une magnifique opportunité, n'est-ce pas, de témoigner de notre espérance, non seulement en parole, mais dans nos actes, dans nos choix de vie, que Dieu nous aide par son esprit, chaque instant, chaque jour. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi pour ton évangile, pour ta bonne nouvelle, pour cette annonce de notre liberté, de notre accueil devant toi. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes heureux d'accueillir ton Esprit Saint pour nous accompagner, pour prier en nous, avec nous, pour nous. Seigneur, merci pour le privilège de te connaître. Au nom de Jésus, amen. Le Seigneur nous bénisse.